Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce séminaire Pensée critique et communication. Bienvenue aussi à Lynne Grenier qui est notre première intervenante. Lynne est professeure agrégée au département de communication à l'Université de Montréal et directrice du laboratoire Culture populaire connaissance critique. Alors comme à chaque fois, en fait, on va laisser la parole à Lynne pendant 40-45 minutes et puis ensuite on pourra débattre à partir de sa présentation. Lynne, c'est à toi.
Merci beaucoup. D'abord, merci Eric pour l'invitation et merci à vous autres d'être là. Je vous dirais qu'il y a certains d'entre vous qui sont des habitués de ce séminaire et on se joignent à vous, certains de nos étudiants de maîtrise et de doctorat et de l'extérieur, mais du labo. Donc, voilà, bienvenue à tout le monde, puis merci d'être là. Quand j'ai reçu cette invitation-là, je dois avouer que je suis restée l'air un peu chose, dans la mesure où j'aurais pas su a priori quoi faire avec pensée critique. Le mot critique me laissait pas indifférente, au contraire, mais pensée critique, particulièrement au singulier, me laissait un petit peu chose. Et la commande d'Éric, au début, il va peut-être s'en souvenir lui-même, sa commande était vraiment, il s'agit de proposer une réflexion épistémologique, tralala, c'était sérieux, c'était vraiment... Et donc, quelque part, j'ai essayé de prendre un peu au sérieux sa commande, mais en même temps, en réalisant que l'exercice était pas mal plus compliqué qu'il n'en paraissait, si j'essayais d'être un petit peu cohérente avec moi-même, un tout petit peu, et essayer de faire une présentation qui soulève ces enjeux-là, mais à la manière même dont je conçois ces enjeux-là. Et la manière dont je les conçois m'oblige à passer par quelque chose qui n'est pas l'exposé méta sur les enjeux épistémologiques d'eux, mais bien plutôt la mise en acte, la performance de ces mêmes enjeux-là. Donc, je m'essaye. Pour parler français, je ne ferai pas autre chose que de m'essayer à faire ça en partie. Je vais faire appel à votre générosité. J'ai appelé ça... diagnostic conjoncturel, ça, je vais vous l'expliquer tantôt, pas de problème, mais en chantier, je veux commencer par expliquer le en chantier, parce que c'est bel et bien ce que c'est. L'image que je veux garder de en chantier, c'est d'abord pour convoquer une première chose, c'est que c'est ce que je vais vous proposer, c'est donc quelque chose qui, par définition, est en travail. Et je dis pas juste ça pour vouloir dire « it's a work in progress ». C'est plus que ça que je veux dire avec ça. C'est je veux garder l'idée du chantier comme quelque chose d'inachevé, mais d'organisé, de quelque chose qui est un espace de potentialité, qui a déjà été structuré en partie, mais lié et ouvert au projet qui anime le chantier. Donc, le chantier se met en branle avec des projets, un projet qui organise le chantier, mais qui, par ailleurs, est ouvert à toutes sortes de choses, y compris des accidents, y compris des changements, y compris toutes sortes de choses. Donc, je veux garder cette idée-là. D'autant que le chantier que je vais vous proposer est aussi une manière de qualifier la manière dont moi, j'organise mon propre chantier. Et donc, ça va me permettre de vous parler de comment ce chantier, je le veux situer. Et par là, je veux effectivement faire un clin d'œil à des choses avec lesquelles vous êtes familière, c'est-à-dire à l'idée d'un savoir situé. Un savoir situé qui, pour moi, donc, suppose que le chantier, il met en scène et il est fait par des gens chairs et en os, bien placé, bien ancré, donc avec une forme d'incorporation du savoir et en même temps avec quelque chose qui dit que les savoirs situés sont toujours nécessairement partiels. Et s'ils sont partiels, ça fait partie aussi de la manière dont on comprend en partie nos propres postures et nos propres positionnements là-dedans. Donc, chantier situé. Un chantier que je veux aussi ancrer. Et ça, pour les gens qui me connaissent, c'est un mot que j'ai très, très souvent à la bouche. Pour moi, c'est l'idée d'un chantier, par définition, dit quelque chose qui est ancré. Et là, j'emprunte le mot « ancré » dans le sens où lui confère Doreen Massey, qui est une féministe, une géographe féministe, qui dit, elle, que le fait d'être ancré, surtout dans un contexte où on a tendance à imaginer que la globalisation est toujours quelque chose qui se fait ailleurs, dans une espèce d'ailleurs qu'on nomme jamais, est encore plus importante compte tenu que c'est là pour elle la possibilité même de poser des questions d'ordre politique. Donc ça, c'est le caractère ancré. Le troisième, c'est ce chantier-là, il se fait en se faisant. Et donc, quelque part, pour moi, c'est un clin d'œil encore là à l'expression qu'utilise Massey pour dire dans le monde en question où on est ancré, mais en même temps, ce monde-là, il n'est pas tout donné d'entrée de jeu. C'est un monde qui est en train de se faire. Donc, c'est un chantier qui est en train de se faire. Et c'est un chantier qui est fait pas juste d'individus isolés, ni non plus de grosses structures déjà holistiquement organisées qui sont toutes entièrement closes sur elles-mêmes, mais au contraire dans cette idée d'ouverture que suppose le fait d'être en train de se faire. Et le dernier élément, et là il est pour moi extrêmement important aussi, c'est que c'est un chantier qui, comme tout chantier, n'a rien de garanti. Et là, j'étends l'expression « non garanti » à partir de certaines considérations épistémologiques empruntées à la version de Lawrence Grossberg de Cultural Studies, donc sa version à lui, où il dit, pour l'essentiel, reprenant les propos de Stuart Hall et de combien d'autres, dont François va certainement faire des petits clins d'œil un peu plus tard, au fait que ce chantier, il part du principe qu'il n'y a rien de nécessaire, par définition. Il n'y a rien non plus de non nécessaire, par définition, et que donc, il n'y a rien, par définition, d'acquis. Ça ne veut pas dire que les relations ne sont pas effectives, que les choses qui se passent sur ce chantier n'ont pas d'effet réel, ils ont des effets bien réels, mais ils ne sont pas garantis. Si vous mettez tout ça ensemble, ça donne le ton à ce dont je voudrais vous parler, qui est donc la manière de rentrer sur quelque chose qui est le chantier et le point de départ, et le point d'entrée, je devrais dire, de ce chantier-là, qui est cette chose. Cette chose-là, c'est l'idée qui est là, qui circule depuis déjà un bon bout de temps, à l'effet que nous sommes en crise. Alors, si vous ne le savez pas, je vous le dis, nous sommes en crise, l'industrie musicale au Québec est en crise. C'est une crise qui s'avère, c'est une crise qui, bien qu'elle commence à, non pas s'essouffler, mais à donner lieu à quelques suggestions de sortie de crise. Alors, déjà, quand on est en train de se parler de sortie de crise, c'est qu'on reste quand même dans le sillon de la crise. Donc, elle est avérée, elle commence à avoir des prises, mais elle demeure, elle persiste, elle est encore très, très présente, elle est encore très organisante, on en parle, on en discute, on en débat, et quelque chose, donc, elle est présente, elle est extrêmement présente. Et sa présence prend toutes sortes de formes, et elle se présente, entre autres, vraiment pleinement comme une crise, et elle est nommée, désignée comme crise. L'expression « crise » ici, je suis allée la vérifier auprès de d'autres façons de raisonner « crise » pour essayer de voir comment, par exemple, quand Gérald Bouchard et son collègue Roy ont travaillé sur la culture québécoise est-elle en crise, est-ce qu'il y avait des parentés dans leur traitement de la crise? Et l'une des choses qui est assez frappante, c'est de dire qu'ils arrivaient à la conclusion qu'il y a différentes acceptions de « crise » lorsque c'est au cœur même du discours public. L'une d'entre elles, c'était une exception assez grave qui dit que, somme toute, c'est une situation de désordre, de décomposition, voire presque de chaos, et que donc cette version-là suppose qu'on entend par crise quelque chose qui provoque et qui est quelque chose qui est de l'ordre du catastrophique. Donc, il y a un peu de ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une vision de la crise un petit peu moins alarmiste, pourrait-on dire, ou qui est beaucoup plus inspirée de l'acception médicale de la crise, c'est-à-dire comme une espèce de situation ambiguë, une phase critique, critique entendue que ça appelle à une solution. Il faut intervenir, c'est un moment qui pose des questions sur lesquelles il faut intervenir et qui suppose donc qu'on trouve que c'est le moment d'une action. Et donc, il y a urgence à l'action. Et il y a effectivement plusieurs de ces moments où on retrouve l'idée qu'on est en crise parce qu'il faut faire quelque chose. Il est temps de procéder, il est temps de passer à l'action. Le troisième élément que je veux mentionner à ce propos, c'est de dire que, donc, dans bien des cas, comme un peu d'autres chercheurs l'ont vu dans tout autre contexte, l'idée de crise, lorsqu'elle circule communément sur la place publique, c'est rarement vu comme un phénomène guillemets naturel. C'est rarement vu comme quelque chose de normal. C'est rarement vu comme une espèce de vecteur de progrès, entendu que, pourtant, dans d'autres types de littérature, s'il y a crise, c'est normal. On pourrait imaginer que les différentes transformations de tous ordres suivent des espèces de cycles où il y a toutes sortes d'ébullitions, des choses en ébullition, oh, moment de crise, oh, la crise est résorbée, on reprend, on repart, donc un mouvement cyclé. Ce qui n'est pas du tout présent, en l'occurrence. Donc, cette crise, elle me préoccupe, mais elle me préoccupe à un titre un peu particulier. Dans la mesure où, pour être honnête, c'est pas vraiment l'objet de ma préoccupation. C'est pas l'objet de mon étude, c'est pas l'objet du chantier proprement dit. Il est vraiment le point de départ. Je le vois comme un moment privilégié pour voir se cristalliser un ensemble de lignes de force, pour examiner les différents mouvements, contradictions, luttes qui s'y retrouvent, s'y entrechoquent, sont évoqués, sont évités. Bref, je le regarde comme quelque chose qui se passe. Je fais le pari, et c'est ça qui est le début du chantier, c'est que je fais le pari qu'avec cette crise, il se passe quelque chose. Sauf que je ne sais pas ce qui se passe. Alors, c'est le point de départ, c'est de dire, je vais faire donc le pari que cette crise est un moment qui permet de penser à ce qui se passe et ce que nous vivons, mais sans savoir a priori ce qui s'y passe et ce que nous vivons. Ce que je veux faire, c'est donc utiliser la crise comme moment spécial, privilégié, pour proposer un diagnostic. Là, je vais entendre diagnostic dans le sens vraiment très lié à la manière dont Foucault l'a utilisé à une certaine époque des travaux de Foucault, où ce qu'il essayait d'entendre par là, c'est de dire, diagnostiquer, c'est quoi? C'est essayer, et lui le liait très, très souvent à un diagnostic du présent. C'était d'essayer de dire de manière très peu humble, c'est dire ce que nous sommes aujourd'hui, et non seulement ça, dire ce que nous sommes aujourd'hui en disant en même temps et en signifiant qu'est-ce que, ce faisant, nous sommes en train de dire de nous. Donc, c'est un énorme projet. Pas besoin de vous dire, je ne livre pas la marchandise au grand complet, loin de là. Donc, c'est plus comme un point vers lequel tendre. J'ajoute à ça que donc le diagnostic que je veux vous proposer, il est aussi en clin d'œil en partie à la manière dont Gilles Deleuze se réapproprie ce même projet en disant il ne s'agit pas juste de regarder ce que nous sommes, mais bien sûr à la manière très deleuzienne, mais bien ce que nous devenons. Donc quelque part, ce que nous sommes ne vise pas à établir un état fixe, stable, mais plutôt à voir qu'est-ce que ce faisant nous sommes en train de devenir. Donc ça c'est la visée, et c'est pour ça que, entre autres, le titre de cette présentation, c'est vraiment diagnostic. Pour faire ce diagnostic, je vais vous proposer une stratégie qui est une façon d'entrer sur ce moment et de procéder comment? C'est en l'événementialisant. Je ne pensais pas être capable de dire le mot sans m'en charger. En l'événementialisant, qui est encore là, un jargon utilisé par Foucault et qui l'amenait à pouvoir par là, essayer de prendre à partie certaines des traditions qui étaient très en cours dans les années 60 et 70, au moment où il écrivait ces choses-là, ou essayer de dire, ben, plutôt que d'imaginer que tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de prendre les choses telles qu'elles ont et d'en chercher les causes, on va plutôt, au contraire, essayer de transformer ces faits qui ont l'air à se présenter à nous comme des faits en quelque chose qui cause problème, en quelque chose dont on va essayer de les transformer de choses en événements. Et donc, par là, d'essayer, là, vous avez les termes qu'il utilise, retrouver les connexions, les rencontres, les appuis, les blocages, et l'idée de ça, c'est pourquoi? C'est pour essayer de voir comment, donc, à un moment donné, ces choses-là sont venues qu'à fonctionner comme une évidence. Alors, si je reviens un peu, c'est que je vais essayer de voir comment la crise, qui est donc un moment privilégié pour questionner ce que nous sommes et ce que nous devenons, pourrait être événementialisée, c'est-à-dire transformée, ouverte, pour essayer d'en faire apparaître comment, à travers elle, on voit des choses qui vont devenir éventuellement une évidence, voire une nécessité. Faire ça, ça ne suppose pas de chercher quelque chose qui n'est pas là. Ce que je veux dire par là, c'est que ça ne suppose pas d'adopter une posture qui suppose que ce qui permet d'événementialiser sont des choses cachés, que ce sont des choses souterraines, que ce sont des choses que moi seul connaîtrais, et pas vous. C'est plutôt d'essayer de prendre au pied de la lettre l'expression que l'un des commentateurs de Foucault, qui s'appelle Philippe Berthière, utilise, qui est de dire, c'est rendre visible ce qui est visible. C'est montrer ce qui est montré. Mais lorsqu'on l'a tellement tout près du nez qu'on ne le voit plus, ben là, c'est juste de déplacer le regard pour, au contraire, mettre en visibilité ce qui est, au contraire, de l'ordre même du visible. Donc, on ne cherche pas, autrement dit, je ne vais pas vous présenter la cause cachée de la crise, ça ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse davantage, c'est de dire de quoi elle est faite, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est là. Donc, c'est très brièvement ce que je vais essayer de faire rapidement, beaucoup trop rapidement pour que ce soit satisfaisant. Mais ma gageure, c'est juste d'essayer d'initier le mouvement pour essayer, après ça, de voir pourquoi est-ce que c'est qu'on fait ça. Donc, Attendez un peu, là. Normalement, ça passe à l'autre. Voilà. OK. Donc, de quoi elle est faite? Je vais vous les passer en rafale. Et encore là, bien sûr, avec aucune prétention à l'exhaustivité du regard que je porte, mais dans l'esprit d'essayer de comprendre certaines de ces saillies, certaines de ces tensions, certaines de ces contradictions. Bon, alors, dans bien des cas, vous allez être au courant de tout ça. C'est dire, dans un premier temps, à quoi on associe la crise, c'est bien sûr la chose, l'une des premières choses qui frappe, c'est la baisse significative des ventes sous format CD de ce qu'on appelle de la musique. Et là, sans aucune considération pour le contenu de ce qui est vendu. C'est vraiment une baisse significative de ce format, tel que, par exemple, à l'ouverture des rencontres annuelles 2008 de la disque, Solange Drouin, qui est la présidente directrice générale, utilise des expressions telles que l'industrie frappée de plein fouet, l'industrie traverse la pire crise de son histoire, jamais l'industrie ne saura se sortir de ce marasme, etc. Pour vous faire une histoire courte, depuis 2004, les ventes en format CD ont chuté de plus de 30% selon les données récentes d'Observatoire de la culture et des communications. Des ventes qui ont chuté aussi et ont fait en sorte que l'ensemble des certifications du style disque d'or, disque d'argent, disque platine, ce genre de trucs-là, qui sont des marqueurs importants, non seulement en termes de vente, mais qui sont eux-mêmes des espèces de moteurs à la vente, les certifications ont été revues à la baisse, sans trop que ça paraisse, mais en disant aux artistes, compte tenu du marché, on veut quand même tenir compte de ça, donc les certifications ont baissé. Ce que ça signifie, entre autres, c'est que les certifications qui sont annoncées maintenant ne se comparent plus avec les certifications d'il y a 10 ans. C'est un point sur lequel je vais vouloir revenir parce que ces manques de comparabilité ou comparaison sont une des choses intéressantes. Donc, l'une des choses, c'est que ça baisse. Non seulement ça baisse, mais ça baisse et cette baisse, elle n'est pas compensée par ce qui est vu comme étant l'avenir de la chose, qui est donc le format numérique. Alors, ce format numérique, on le voit en nombre croissant, mais l'argument constant qui est repris par à peu près tous les acteurs, c'est que pour le moment, il n'y a pas une reprise suffisante et il n'y a pas une prise suffisante du numérique pour compenser la perte de vente en format physique. Et là, vous avez juste les chiffres qui viennent de sortir de 2009 de l'Observatoire, et remarquez les écarts, les variations sont effectivement assez importantes et significatives, même si le numérique connaît une croissance vraiment importante, c'est de l'ordre du 480% de croissance depuis 6 ans. Alors, vous imaginez, là, c'est des croissances faramineuses, et la plupart des analystes, soit-ils ceux qui travaillent avec les différentes associations musicales ou voire même les économistes indépendants, voient qu'il est clair que dans l'état actuel, cet écart-là fait en sorte qu'il y a un manque à gagner. Il y a un manque à gagner qui, encore là, n'est pas compensé parce qu'il demeure quand même largement la principale source de revenus de l'ensemble des producteurs. Et ce n'est pas la vente de disques, c'est la vente des droits, c'est la vente des droits de reproduction, c'est la vente des droits mécaniques et non mécaniques de reproduction. Ce qu'on appelle dans le jargon les droits voisins aussi, c'est-à-dire les droits pour la reproduction sous d'autres formats. Donc, quelque part, le guillemet symptôme que ces gens-là y voient, parce que c'est comme ça qu'ils en parlent, c'est le symptôme, c'est le Québec vraiment n'est pas seul à subir cette crise, c'est une crise mondiale. Et le Québec ne fait qu'être l'un de ceux qui sont touchés, voire qu'ils sont touchés de manière un peu particulière. Mais pourquoi ils sont tant touchés? C'est qu'effectivement, ils sont aux prises avec le problème de fond, le piratage. Le piratage est vu comme étant vraiment la pratique, non seulement illégale, responsable de bien des maux, mais la pratique immorale de bien des maux. Immoral parce que jouant sur le non-respect de ce qui devrait être un droit acquis, c'est-à-dire la primauté des droits des créateurs à recevoir une rémunération équitable pour le travail qu'ils font. Et amoral et immoral parce qu'effectivement, court-circuitant ça, c'est la façon de ne pas reconnaître non seulement l'importance des créateurs, mais voire reconnaître la primauté même de la création. Et là, si vous entendez une petite touche de cynisme dans ma voix, il y en a une petite touche de cynisme dans la voix, parce que cette immoralité-là, elle n'est pas épandue et répandue pour parler d'autres types de pratiques qui pourraient être appelées illégales, qui pourraient être qualifiées de piratage, mais qui ne le sont pas. Alors, par exemple, si vous allez à un spectacle et que pendant le spectacle, vous trouvez que la chanson qui s'en vient est très, très bonne et que vous partez votre téléphone cellulaire pour prendre la photo, mais en même temps, peut-être entendre un petit bout sur vidéo, vous êtes dans la plus grande des immoralités et ça, jamais personne considère que ça, c'est du piratage. Donc, Quelque part, toutes sortes de chiffres, et bien sûr, à l'échelle planétaire, le piratage est non seulement vu comme étant l'ennemi juré numéro un, mais aussi, en même temps, la chose qui vraiment oblige à les gens à repenser comment il se fait que le piratage s'est tant développé. L'une des choses qui est mise sur la table, c'est de dire qu'il est clair que si on n'avait pas assisté à la numérisation rendue possible et accompagnée et produite par les différentes technologies, le MP3, pour parler matériellement, le format MP3, l'objet qui est devenu quelque chose qui est au cœur des échanges, si ça s'était pas arrivé, le piratage n'aurait pas connu les succès qu'il connaît. Donc, quelque part, et vous avez là un graphique qui est repris dans à peu près, je dirais, 3 analystes sur 4 reprennent ce même schéma pour essayer de situer comment les différents moments du développement des ventes, et là, on s'entend toujours, c'est ce qu'ils regardent, ce sont en l'occurrence des ventes, ils vont regarder comment, à différents moments, les différentes technologies étant présentes et parfois se chevauchant, hein, vous comprendrez bien que souvent elles se chevauchent, on voit là les montées de ventes et en même temps les baisses très grandes. Donc, ce qu'on se dit, c'est que le même MP3 qui a été à l'origine vraiment de l'âge d'or de l'industrie musicale, c'est comme ça qu'on l'a décrit, il est à l'âge d'or parce qu'il a permis effectivement des ventes, des croissances exponentielles des ventes. Et pendant un grand moment, les gens se sont mis, par exemple, à acheter sous format numérique ce qu'ils avaient avant. Bon, alors on a connu cette période de grande croissance et après ça, le déclin. Et si le graphique s'arrête, les chercheurs disent bien que s'ils l'avaient poursuivi, ça serait encore plus, une chute encore plus drastique. Donc, à la fois source de l'âge d'or et principe même de sa chute. On ajoute à ça que cette crise, c'est aussi l'occasion pour différents intervenants de ce qui est qualifié du milieu d'en discuter. Alors là, je vous disais tantôt, c'est bien sûr, on en parle, mais on en parle depuis au moins 2005. Mais disons que depuis environ 2006-2007, donc depuis environ 5 ans, c'est vraiment sur toutes les lèvres. Et non seulement c'est sur toutes les lèvres des personnes, ça c'est une chose, ça je le sais pas, mais c'est sur les lèvres de l'ensemble des intervenants organisés des différents milieux. Donc, que ce soit des gens des radios, bien sûr, des producteurs et des réalisateurs, des artistes, des organismes représentant les droits. Bref, sont tous à peu près unanimes pour en discuter. Mais la manière dont ils en ont discuté a changé. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de discours qui sont tenus là-dessus. Il y a eu, dès le départ, des discours du style « Il faut comprendre que là, ça y est, on est en pleine crise. Comment fera-t-on pour s'en sortir? » Alors, vous avez là l'un des événements annuel parmi les plus courus au Québec, qui est les rencontres de la disque, les rencontres annuelles, pas la portion spectacle, remise des prix, mais la portion party de l'ensemble des gens et des gens de l'industrie qui tiennent leur colloque annuel. Et donc, chaque année, le thème de ce colloque, depuis quelques années, est directement lié à leur façon de pouvoir traiter de la crise, passant de « Comment va-t-on vendre de la musique si le piratage est si important? » ce qui était au cœur de leurs propos de 2007. Après ça, c'était « Ah, regardez, il y a peut-être une voie de sortie quelque part. On va peut-être voir de nouveaux horizons. » Et l'année subséquente, c'était vraiment « Ça y est, c'est arrivé. Nous sommes dans un monde numérisé. Le jukebox est devenu universel. Nous allons être de ça. » Cette année, j'aurais pu vous l'ajouter, c'est « Regardons vers demain. » Alors, c'est vraiment une transformation significative, mais ça participe, pour moi, c'est important de le souligner, parce que ça participe de la manière dont cette crise est présentée, vécue, articulée. C'est aussi, et c'est accompagné par un ensemble, la crise prend des formes très concrètes aussi, de pratiques non discursives et discursives, qui la font exister sous la forme, par exemple, de campagnes. De campagnes, bien sûr, pour tenter de mettre un terme au piratage. Alors, vous avez différents types de campagnes qui ont cours depuis environ 2004. Donc, vous voyez bien arriver avant qu'on commence à dire pleinement qu'il y a crise. Mais c'est à peu près depuis 2004. Il faut dire que, alors que dans d'autres contextes, les différents producteurs avaient installé des verrous électroniques et qu'on pensait que l'installation de ces verrous allait, puisqu'ils rendaient impossible, supposément, la copie, il se disait, ben, ça va peut-être régler le cas. Ici, il n'y a pas eu ces verrous. Au Canada, on a plutôt mis d'entrée de jeu une surtaxe qu'on a appelée à l'époque sur les copies vierges. pensant que ça serait une version plus canadienne, plus agréable de procéder. Ça n'avait pas beaucoup fonctionné non plus. Donc, quelque part, on a lancé plein de campagnes. Et bien sûr, ces campagnes, elles ont eu à la fois un côté non au piratage, mais aussi au côté non, peut-être non au piratage, mais surtout merci à la musique. Donc, c'est une espèce de façon de dire, encore là, travailler des pratiques qui vont permettre d'être conséquents avec la manière dont la musique devrait être conçue, vendue et consommée, c'est-à-dire dans le respect des droits des ayants droit, entre autres. Le petit clin d'œil en bas, c'est quelque part, on nous présente ça comme un phénomène nouveau, un phénomène qui n'aurait rarement existé, et pourtant, il y a, dès le début des années 70, un ensemble, ceux et celles qui y étaient s'en rappelleront, les autres peut-être pas, mais au début des années 70, il y a eu une campagne où, effectivement, on essayait de mettre un frein à ce qui devenait une pratique très largement connue, qui était de faire des copies maison, des cassettes, pour parler français, on parlait ça des tapes. Alors, on faisait des tapes maison et on se les passait beaucoup et il y avait un marché de plus en plus intéressant pour ça. Il y a eu une énorme campagne pour faire cesser et à peu près sur le même mode. Donc, quelque part, ça historicise en partie la pratique. J'avance vite parce que je veux garder du temps pour la suite. Donc, c'est un moment où, bon, on fait des campagnes, la crise, c'est aussi des campagnes. La crise, c'est aussi un moment où on voit différentes stratégies qui sont mises en œuvre. Parmi celles-là, la convocation d'un ensemble d'appareils juridico-légaux qui vont être convoqués pour les premières fois de manière aussi explicite pour essayer de s'en prendre, dans certains cas, à des consommateurs individuels. Vous avez vu certainement de trouver des façons de dire aux États-Unis, en Grande-Bretagne, on a intenté, quand je dis « on », ce sont les entreprises productrices, ils ont intenté des poursuites légales contre les gens qui téléchargeaient illégalement et donc ils s'en sont pris aux individus. Ici, on a dit pas notre façon de faire. Pas tout à fait notre façon de faire. On va faire une autre façon de ça. On va plutôt essayer de développer une façon de s'en prendre aux gens qui rendent cette pratique possible et en l'occurrence, de voir les gens qui font du fric avec le piratage. Qui fait du fric avec le piratage? Les entreprises qui sont gestionnaires de sites et l'ensemble des fournisseurs de des modons, les pattes passantes, bref. C'est, oui, c'est ça. Comment tu les appelles? Merci. Les fournisseurs d'accès, exactement. Les fournisseurs d'accès. Donc, quelque part, il y a eu et là, vraiment, ça fait grand tollé, parce que, vous imaginez, on est un relativement petit contexte en termes de joueurs de cette catégorie-là. Et certains des joueurs ont trouvé que cette idée-là de vouloir s'en prendre aux diffuseurs Internet, lorsque les mêmes diffuseurs Internet s'adonnent à aussi être des producteurs musicaux et s'adonnent aussi à être des distributeurs et s'adonnent aussi à être responsables de certaines des principales entreprises télévisuelles, il y a anguille sous roche, il y a tension au sein des différentes entreprises et donc, quelque part, c'est pas une pratique qui a été vraiment unanimement approuvée, d'autant que ça a donné lieu à une scission relativement importante. L'un des principaux joueurs sur la scène a quitté l'organisme chargé de les représenter, donc Québécois quitte et ferme la porte derrière, ça fait grande sortie en refusant de siéger à la disque et donc retire son poids. Pourquoi c'est un événement lié à la crise? Ils le voient pour eux absolument au cœur en disant « c'est un moment clé pour prendre des stratégies, c'est un moment clé pour faire du positionnement ». La façon dont cet acteur, la disque, propose quelque chose n'est pas en prise avec la manière dont Québécois et d'autres entreprises considèrent que c'est pas la manière de faire des affaires. Bref, on voit là tout un ensemble de jeux qui ne sont pas des jeux de coulisses. Il y en a des jeux de coulisses, mais ce ne sont même plus des jeux de coulisses. Ils nous déballent directement. En même temps que ça se passe, différentes initiatives. Alors là, ça pullule toutes sortes d'initiatives commerciales pour essayer de tirer profit du contexte au sens vraiment des conditions qui rendent possible l'exploitation du numérique sous toutes ses modes, bien sûr en l'espoir de pouvoir récupérer une partie des sommes présumément perdues. Donc, parmi ces nouvelles initiatives, je vous en ai juste mis quelques-uns, et bien sûr, la plupart, vous auriez pu les trouver vous-même, dans le sens, c'est le recours à l'ensemble des médias sociaux, bien sûr, et ça, c'était pas récent, c'est pas quelque chose qui date d'hier, mais c'est quelque chose qui a été intensifié et généralisé, puisque pour eux, c'est l'un des éléments d'une sortie de crise possible. Donc, quelque part, on se tourne. Ça suppose d'intégrer de nouveaux acteurs. Et on va voir tantôt, c'est pas innocent que là, on voit arriver des nouveaux acteurs. L'ensemble des éléments que je vous ai mis là, et là, j'ai coupé les coins très, très ronds, à ce qui devrait être quelque chose qui, j'espère, vous donne quand même un aperçu de différents des éléments qui doivent être pris en compte pour essayer de donner à la crise une texture minimale. Essayer de comprendre que la crise, si on ne la regarde pas en cherchant sa cause cachée, mais qu'on essaie de regarder qu'est-ce qu'elle déploie, elle déploie plein de choses. Elle nous oblige à s'intéresser à la fois à des pratiques économiques, juridiques, à des technologies, à des réglementations, à des acteurs sociaux, à des groupes de consommateurs, à l'ensemble des conditions morales, à bref, à un ensemble de choses qui, si on veut rendre compte, événementialiser la crise, sont absolument essentielles à prendre en compte. Pourquoi faire ça? Alors, pourquoi adopter cette stratégie-là? Pourquoi considérer que c'est quelque chose qui vaille la peine? Autre gageur, mais cette fois-là, c'est une gageur appuyée théoriquement par d'autres qui font ça mieux que moi, c'est quelque part de dire, c'est parce que l'objectif en faisant ça, je vous ai dit tantôt, la crise, c'est pas mon objet. Mon objet, c'est le contexte qu'elle rend possible, le contexte dont elle participe, et en des termes qui sont ceux que je vais emprunter là à Grossberg, qui lui-même l'emprunte à quelqu'un d'autre, qui l'emprunte à quelqu'un d'autre, c'est effectivement de pouvoir faire l'analyse d'une conjoncture. C'est d'essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, quelque part, comprendre ce qui se passe, c'est d'essayer de voir une formation sociale qui se déploie, en l'occurrence, à travers cette crise, dans et par cette crise, pas à côté, pas en dessous, pas caché, dans et par cette crise, et d'y voir le lieu d'un ensemble de fractures, de conflits qui se font sur de multiples plans, sur de multiples axes, qui certains s'entrecroisent, d'autres pas, de telle manière à pouvoir y voir la variété des pratiques, des luttes et des négociations qui le font être, et qui donc font être ce que je vais appeler une conjoncture. Cette conjoncture, c'est une façon particulière de nommer le contexte. Et ce qui m'intéresse, pour être bien honnête, c'est le contexte. Je veux donc, en m'intéressant à la crise, regarder le contexte. Ce que je veux comprendre, c'est quel est ce contexte que la crise auquel la crise participe et qu'elle met en évidence. Qu'est-ce qu'elle rend visible lorsqu'on regarde sa propre visibilité? Ce contexte-là, il faut tout de suite dire d'entrée de jeu, et j'espère que je n'ai pas commis l'impair que j'essayais de ne pas commettre, c'est-à-dire de traiter le contexte comme quelque chose que j'aurais pu juste, tout simplement, pour parler français, flaguer. Vous savez, dans le contexte du Québec, vous savez, les politiques radiodiffusion, vous savez, l'histoire du nationalisme, vous savez, le genre contexte qui sert de toile de fond, qu'on n'étudie jamais, qu'on prend pour acquis, et qui sert, comme de manière très, très, très confortable, à situer les éléments qui nous intéressent. On va chercher du contexte, les éléments qui font notre affaire. Quand ils ne font pas notre affaire, ben on ne les regarde pas. Je suis un peu vache, mais c'est à peu près ce qu'on fait généralement. Et donc, quelque part, ce n'est pas ce contexte-là dont je parle. Donc, ce n'est pas le contexte qui est toile de fond. Ce n'est pas non plus le contexte, la société dans son ensemble. Comme s'il existait une chose telle que la société dans son ensemble, qui se donnait comme une espèce de totalité indivise, holistique par définition, et qu'on était capable, surtout, d'aller chercher dans l'ordre même de sa totalité. Pas pour moi. De la même manière, c'est pas plus, et là, je crois que j'espère que je voulais laisser résonner, c'est pas non plus une totalité sous l'angle « allons chercher le contexte » tel qu'il y aurait une sédimentation de couches, plus ou moins cachées, là. Alors, si vous creusez vraiment, là, vous allez chercher quelque chose, et au fond, là, vous allez trouver vraiment le moteur de tout ça. C'est pas non plus ce contexte-là. Et c'est pas non plus le contexte qui est probablement la version la plus contemporaine du contexte que je n'utiliserai pas, mais que probablement certains d'entre vous reconnaîtront, là où on se dit que le contexte, dans le fond, c'est la somme d'un ensemble de différences plus ou moins bien organisées. Alors, vous faites la liste des différences qui vous semblent significatives. Alors, nommez-les, ça peut être des différences économiques, de genre, sexuelles. Prenez la liste, vous juxtaposez, et vous avez là un contexte. C'est pas ces contextes-là dont je parle. Le contexte auquel je réfère, c'est donc c'est quelque chose qui ne peut pas être donné d'avance, et c'est donc quelque chose qui est le frémin de l'analyse. C'est ce que je cherche, et c'est ce que je vais essayer, par mon analyse, de pouvoir nommer, analyser, cartographier. Bien sûr, de manière, et là je renvoie à mon idée de chantier de début, bien sûr, de manière située, ancrée, inachevée, en train de se faire, et en même temps, absolument non garantie. Donc, pas de garantie non plus là-dessus. Quelque part, l'une des choses, par contre, c'est que c'est pas n'importe quoi. C'est pas vrai qu'une fois que j'ai dit, bon, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela, même s'il n'est pas garanti, etc., 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 il n'est pas n'importe quoi. Et là, pour essayer de la frapper, je vais me tourner encore là vers Larry. Larry Grossberg, qui vient de publier son bouquin. Très commode quand on cherche à trouver deux, trois mots pour dire « Coudonc, comment est-ce que je pourrais décrire brièvement la façon de l'attraper? » Ben, l'une des façons de l'attraper, c'est que lui, il nous dit « Il y a dans un projet de Cultural Studies qui est le sien, lui, il décrit en disant « Le contexte, pas compliqué, c'est très compliqué, je comprends pas le corps de ce qu'il en raconte, mais... » Je retiens deux, trois choses. C'est qu'il nous dit le contexte, c'est dans le fond des modes de contextualité différents. Ça, je suis ça. Et il dit, le contexte en question, il nous propose des théories des contextes. Et là, il va arriver avec trois, quatre de ces formes de contextualité. Il y en a une, je ne comprends pas, je vous le dis tout de suite, elle s'appelle des diagrammes, je ne sais pas de quoi il parle. Donc, je travaillerai ça, je vous en reparlerai peut-être un jour. Mais là, je n'ai rien compris. Donc, je le laisse de côté. Mais je dis, il y en a deux autres, par contre, qui me parlent beaucoup. Et il distingue donc comment, pour travailler le contexte, on peut penser le contexte en termes de milieu, et penser le contexte en termes de territoire. Et c'est pas pour rien qu'il utilise des métaphores spatiales, même si, en même temps, il dit bien, ce sont aussi des formes de temporalisation particulières. J'entre pas là dans les détails de chacune, j'ai ni le temps, ni le lieu, mais c'est quand même pour convoquer des manières dont ce contexte qui est à bâtir, on peut l'imaginer comme la rencontre plus ou moins organisée et à organiser de ces différentes formes de contextualité, c'est-à-dire certains enjeux qui relèvent d'assemblages matériels qui permettent de faire tenir ensemble un ensemble de choses, d'activités, de pratiques, de groupes avec des composants techniques, technologiques, économiques et des structures de pouvoir, bien sûr, d'un côté, et ça, ça serait son milieu. Et en même temps, un territoire qui, là, est plutôt un assemblage de ce qu'il appelle, lui, les réalités vécues, les réalités expérientielles, qui supposent d'être traversées par un ensemble de dimensions affectives, émotives, signifiantes, etc. Donc, j'imagine que le contexte que je cherche, il se trouve à une espèce de croisement de ces différentes formes de contextualité-là comme piste pour les regarder. Ce faisant encore là, qu'est-ce que c'est que ça oblige à faire? C'est se dire, ben, si ce contexte, il reste à penser en termes des rapports potentiels entre des formes de contextualité différentes, ben, c'est donc, encore une fois, il ne s'agit pas de le prendre pour le donner, mais d'essayer de se dire que le travail à faire, c'est donc, si c'est l'objectif, c'est de développer ce contexte, c'est donc que, quelque part, c'est ce qui m'amène à dire, ben, à ce moment-là, je vais tenter de faire de ce contexte un des éléments d'un problème. Et donc, encore là, double lecture. Je vais chercher chez Foucault la même trame qui m'inspire chez Foucault, c'est-à-dire l'idée qu'il y a un travail à faire, et ce travail, c'est de se dire comment est-ce qu'on a posé des problèmes. Il dit là-dedans, et j'aime bien, l'une des choses qui souvent nous bloque pour penser, c'est qu'on tente de trouver de nouvelles solutions, mais au même problème. Alors que peut-être qu'il faut réfléchir à comment on a posé le problème. Donc, quelque part, la problématisation, au sens où il l'entend, suppose de trouver des manières de comprendre comment les choses ont été mises en problème. Et faire ça, pourquoi? Parce que quelque part, ça ouvre à dire ce contexte, comment je l'attrape, comment je comprends que peut-être je suis capable de circonscrire de manière inachevée, imparfaite, située, ancrée, tout ce que vous voudrez, quelque chose qui dit « je pense que j'ai des éléments de ce contexte, je pense que je comprends un peu ce que nous sommes, ce que nous devenons », c'est quelque part en disant « c'est lorsque j'ai été capable de nommer ce problème, lorsque j'ai été capable de nommer ce que David Scott appelle « a problem space », donc un espace problème ». Ce qu'il veut dire par là, et vous voyez son truc, c'est de se dire « bon, David Scott part d'un inconfort et d'une insatisfaction en disant beaucoup de penseurs qui se disent critiques passent leur temps à s'obstiner sur les solutions à un problème. Et tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est trouver la meilleure façon de résoudre le problème sans prendre la peine, dit-il, de se questionner eux-mêmes sur le problème qu'ils posent, de ne pas poser les questions sur les questions qu'ils posent. Donc, quelque part, il dit, lui, il s'agirait plutôt d'essayer de voir comment dans une conjoncture, donc un contexte défini tel que je l'ai imaginé, comment dans une conjoncture on peut voir qu'elle est porteuse et elle est définie par cet espace problème. Et cet espace problème, moins comme une façon de générer de nouvelles solutions encore, donc pas à la recherche de nouvelles solutions, mais bien de manière à générer d'autres questions, d'autres problèmes. Donc d'essayer de voir qu'est-ce qui est en train d'être défini comme problème là-dessus. Je vous dis en rafale les éléments qui sont susceptibles de guider ma réflexion là-dessus, parce que bien sûr, elle est loin d'être achevée. Donc, quelque part, certains des éléments, et je vais aller très, très vite. Certains des éléments, c'est que, bien sûr, dans ce dit contexte, l'une des choses frappantes, c'est qu'il faut se demander de quelle industrie est-ce que la crise met en évidence. L'une des choses que ça montre, c'est la fracture qui a déjà été opérée entre les différentes composantes de ce qu'on appelle l'industrie de la musique, mais qui n'a jamais été une industrie unique, qui a toujours été une composition plus ou moins organisée et surtout inégale d'entreprises diverses qui n'ont qu'une seule chose en commun, c'est de pouvoir, de quelque manière, parler de musique. Mais ça regroupe, bien sûr, les types et l'industrie qui a longtemps drainé, depuis les années 20 à peu près, qui a drainé l'essentiel de la chose, c'est l'industrie de l'enregistrement sonore, mais c'est accompagné de distributeurs, de spécialistes de marketing, de spécialistes de vente au détail, et là, un ensemble d'autres qui, selon les moments et les époques, ont eu le droit au chapitre ou pas, et là, de manière assez classique, au moment de la crise, on est prêt dans certains cas, et là, vous avez là les termes d'un des principaux gourous américains de la pensée de cette industrie en crise, qui dit « l'industrie du disque est mort, longue vie à l'industrie, aux affaires musicales ». Et vous remarquerez que son affaire musicale retotalise la chose. Quelque part, donc, tenir compte du fait qu'il y a là un ensemble d'industries en composition. Quelque part, l'autre élément, c'est, et là, je suis de celles qui ont contribué à être quelque part ce dont je parle, parce qu'il y a des lunes, j'ai fait une analyse de tout autre ordre sur les causes, les causes de la crise et de la sortie de crise dans les années 80, et quelque part, pour après prendre un peu de recul, non pas pour me dire je me suis trompée, mais pour dire, ah, c'est intéressant, encore une crise. Et une crise qui a été extrêmement effective et une crise qui a été extrêmement importante pour le développement des industries de la musique telles qu'on les connaît maintenant, parce que ça a permis le développement d'un ensemble de politiques de financement, ça a créé des structures qui sont celles avec lesquelles on fonctionne, ça a été le lieu de l'émergence et de l'éclosion de parmi les lobbies les plus importants de ces milieux, etc., etc. Quelque part, une des choses que j'explore donc, c'est de se dire, ben, il y a une effectivité au fait que il y a une crise et que la crise nous sert. Et que donc, c'est pas, la crise n'apparaît pas juste comme un élément négatif. Et quelque part, la crise a une effectivité, sert à quelque chose, a fait quelque chose. Et l'une des choses qu'elle fait, elle met sur la place publique et directement au cœur des enjeux politiques le soutien à cette industrie en crise. Industrie qui, et là je vous fais l'économie de la manière dont la disque a été et continue de promouvoir l'importance centrale de cette industrie, pas juste pour l'industrie, bien sûr, pas juste pour les créateurs, pour l'avenir même du Québec. Et en reconnaissance de sa trajectoire, de sa spécificité culturelle, nommez tous les enjeux que vous pourrez imaginer, ils y sont. Donc, quelque part, défendre l'industrie, c'est défendre le Québec, et c'est partie prenante de cette chose-là. D'autant plus que cette industrie, malgré la crise, l'une des choses qui en fait un enjeu, cette défense-là, c'est que quelque part, depuis au moins 5 ans, on mesure à l'Observatoire de la culture et des communications, à l'aide d'un instrument que mon collègue Claude Martin et moi-même avons créé, donc nous sommes absolument dedans, nous avons fourni l'instrument qui permet de mesurer la part québécoise des ventes, des albums, de ce qui se vend au Québec. Ce qu'on avait eu comme commande, c'est de proposer ça. Qu'est-ce qui est québécois? On leur avait dit, bien ça, c'est une grosse question. On a plutôt trouvé une façon de montrer comment les produits qui se vendent se présentent comme québécois ou pas. Donc, et ça, il ne l'explique pas très bien si vous lisez les tableaux statistiques, ce n'est pas très dit. Mais ce que ça permet de faire, c'est quand même néanmoins de dire, sous l'angle de ce qui est présenté comme le répertoire ou les artistes, ou ce qui est présenté comme entreprise responsable de l'ensemble des ventes, on obtient donc 2 mesures. Et cette mesure continue à montrer que même lorsqu'il y a des chutes significatives des ventes, la part québécoise persiste, demeure. Elle reste à peu près constante. Elle reste à peu près constante à 30-35% dans à peu près n'importe quel marché national. C'est plus que personne n'a jamais vu. Quelque part, c'est donc maintenir cette industrie dans l'état où elle est, c'est entre autres l'enjeu de maintenir des choses qui l'ont rendue possible. De nouveaux acteurs, je vous disais, dans la contemporanéité de ce qui se passe, il y a bien sûr, tout le monde est en crise, on se fait toutes sortes d'affaires, mais Il y a plein d'autres nouvelles affaires qui sont en même temps, qui se passent en même temps. Et là, je vous en ai juste mis quelques-uns qui vont, bien sûr, de la réémergence. Et ça aussi, c'est tout à fait présent. C'est pas caché nulle part. C'est tout à fait présent, la réémergence du live, donc du spectacle vivant, qui, bien sûr, est là pour montrer comment est-ce que, si les ventes de disques se perdent, la musique continue de vivre parce que le spectacle vivant vit. C'est très présent. C'est en même temps que se développent des formes de spectacles très différentes, qu'il y a plein d'autres stratégies industrielles qui se développent, dont, entre autres, celui que vous avez entendu certainement parler, qu'est-ce qu'on appelle les contrats 360, qui est la manière dont les entreprises, maintenant, prennent plus en charge strictement l'enregistrement d'un artiste ou les enregistrements sur disque d'un artiste, mais l'ensemble des dimensions de la carrière d'un artiste faites par une même entreprise. Donc, ça va de, bien sûr, la production d'un disque, mais ça va jusqu'à la vente des chandails, ça va jusqu'à la préparation du site web, etc., etc., etc. Donc, il y a des contemporanéités, mais des contemporanéités dont certaines valent la peine d'être soulignées parce qu'elles permettent d'avoir que de nouveaux joueurs entrent dans le décor. Et des joueurs qui n'ont pas nécessairement à voir avec la même vision de la musique comme objet de création ultime, comme expression ultime, comme cœur de la vie culturelle québécoise, mais qui sont vraiment utiliser la musique pour vendre autre chose. Et ça, pour cette industrie, ça fait des joueurs avec lesquels on ne sait pas trop quoi faire. Alors, ce sont des joueurs qui, bien sûr, sont bien sûr des vendeurs de cellulaires, et l'une des manières dont on vend les cellulaires, c'est « je vous donne 3 téléchargements gratuits de musique ». Donc, ce qu'on veut vous vendre, ce n'est pas la musique, c'est le téléchargement, c'est le cellulaire. Il y a aussi, bien sûr, tout un ensemble de nouveaux acteurs du style les jeux vidéo, où effectivement, se vendent, c'est l'un des lieux où se vend le plus de musique. Parmi les ventes qui marchent très fort, mais qui passent un peu inaperçues, les sonneries, ce genre de trucs-là, c'est des marchés de plus en plus lucratifs. Donc, quelque part, dans le portrait, il faut inclure des formes et des lieux musicaux qui ne sont pas de l'ordre de ceux que, dans cette crise, on a tendance à nécessairement convoquer, mais qui sont en même temps sur la table. Ça m'amène aux dernières propositions que j'ai, puis là, je dépasse. Je prends 2 minutes de plus.
On n'est pas quelques instants
après. Donc, ça m'amène à ma seule et unique proposition de fin, qui n'est pas une fin, qui est comme, OK, est-ce que je suis capable d'esquisser quelque chose qui pourrait ressembler à un espace-problème? Est-ce que je serais capable de mettre en mots ce qui me semblerait relever de ce contexte? Donc, qu'est-ce qui serait, guillemets, en cause? Quel serait ce contexte? La chose qui me vient, et c'est qui me vient, bien sûr, là, c'est pas comme ouh, comme ça, mais disons que c'est la chose qui commence à se condenser. C'est la chose vers laquelle pointe un ensemble d'éléments qui sont de penser que peut-être ce qui est en cause en ce moment, donc le contexte et l'espace problème, en est peut-être un qui est une crise de la circulation. Et là, par circulation, je vous ai mis Poirier, que vous avez peut-être reconnu certains d'entre vous, Justin Poirier, qui, dans un moment de vraiment d'élan philosophique, on lui a demandé de dire, comment tu comprends, toi, c'est quelqu'un qui fait du DJ, qui fait de la musique électronique, et donc, lui, son univers, c'est le numérique. Hors de cet univers, point de salut. Et on lui demandait, comment vois-tu la situation actuelle et comment vois-tu qu'est-ce qui se passe? Puis lui, sa réponse, c'est, il faut d'abord, avant tout, que la musique circule. Et ça, c'est le genre de choses où un matin, on se dit, ah, lui a compris! Alors, quelque part, la circulation à laquelle je pense, c'est pas juste le transport, les mouvements d'une chose vers une autre. C'est plutôt vraiment à l'instar, et là, je vais m'inspirer de travaux de chercheurs qui sont vraiment de tous acabits, qui sont de toutes sortes de disciplines, mais qui sont tous, au cours des 5-10 dernières années, mis à réfléchir à comment peut-être qu'il y a lieu de penser en termes de circulation. Et par ça, ils veulent dire d'essayer de penser la circulation comme étant un processus culturel qui a ses spécifications propres, qui installe ses formes propres, qui ne sont pas juste les formes qui circuleraient sur des canaux libres qui le feraient être, mais vraiment des formes propres. Et quelque part, donc, il supposerait que cette circulation installerait ses critères de valorisation, ses propres critères pour l'interprétation, les termes même de sa circulation. Donc, c'est ce processus qui est peut-être en cause. Ce que moi, je questionne, c'est, je me dis, peut-être qu'une des choses qui se passe, c'est que, en termes de circulation, et là, je vais vous lancer une autre idée, c'est qu'il y a peut-être en cours la présence concurrente de ces circulations différentes, et je les appelle des régimes pour défaire le fait que ça a l'air de circulation, ça a l'air de flotter dans les airs, là. Alors que ce dont je veux parler, c'est des processus ancrés technologiquement, politiquement, matériellement, économiquement. Et donc, je les ai appelés des régimes pour suggérer que ça suppose des assemblages de discours, d'institutions qui rendent ces circulations-là possibles. Et qu'est-ce que font ces régimes? C'est non seulement ils installent des formes particulières qui circulent, ils permettent de réguler comment, à travers cette circulation, se créent des espaces qui deviennent présumément publics, et comment, ce faisant aussi, ils permettent et produisent la valeur, viennent qu'à voir qu'est-ce qui importe. Là, je vais vous l'illustrer, et là, faut pas rire, parce que ce sont des schémas en chantier, alors faut surtout pas rire. Je vais vous présenter en schéma deux de ces régimes. Bref, je les travaille depuis quelques années, et je suis pas bonne en schéma. Mais là, il y a trop d'éléments, il faut que je les pense en schéma. Alors, juste pour vous le souligner, puis je vais vite, je termine là-dessus, je voudrais vous proposer qu'il y a deux régimes de circulation. La crise mettrait en cause la rencontre de deux de ces schémas, tels que, on en aurait un, ou celui-ci, que moi j'appelle mainstream, juste parce que c'est celui qui est probablement celui sur lequel les industries de la musique au Québec et le champ culturel au Québec s'est développé, c'est-à-dire quelque chose dont le pivot est la forme circulante, c'est une chanson. C'est une chanson qui peut s'incarner de toutes sortes de manières. Elle peut s'incarner dans les pistes CD, elle peut s'incarner dans les clips, dans une émission radio, mais la forme qui circule, c'est une chanson. Elle se développe et se déploie sur des axes. Je vous disais tantôt, le contexte se déploie sur des axes différents. Bien là, un des axes sur lesquels il se déploie de manière spatio-temporelle, c'en est un où on joue toujours en tension entre les nouvelles chansons. Il faut vraiment qu'il y ait du nouveau. Et le rythme et l'intensité de la nouveauté est importante. Mais en même temps, quelque chose qu'il faut qu'il y ait une durée. Alors, il y a des choses nouvelles, mais il faut assurer une certaine durée. Alors, c'est un des axes de tension. Et en même temps, alentour de ça, toutes les choses évidentes que l'on connaît, c'est-à-dire comment ces chansons sont au cœur d'un ensemble de processus et de dispositifs pour mesurer le succès, créer le succès, installe un ensemble de choses qui sont le vedettariat et ce genre de trucs-là, et aussi dans la foulée de la durée et de la toutes les choses qui font qu'on parle de canon, on parle de commentaires, de critiques qui participent à canoniser, bon, tout ça. C'est un schéma qu'on connaît bien. C'est probablement le régime de circulation le plus, pour reprendre Foucault, il serait celui qu'on a le plus dans le visage. Mais je voudrais le contraster avec au moins un autre, qui est celui que j'appelle pour le moment, faute de meilleurs termes, expérience. Pourquoi expérience? Parce que la forme qu'elle met en cause en est vraiment une qui met l'accent sur la marchandisation de l'expérience. Le cœur, c'est pas la chanson. C'est pas une chanson. C'est un événement. Et un événement qui circule. Alors, l'événement peut prendre la forme d'un spectacle, d'un DVD, de concours, de salon, de carnaval, de manifestation de tous ordres, mais c'est des événements. Et ces événements, de la même manière, l'un des axes sur lesquels ils se déploient au plan spatio-temporel, c'est que soit qu'ils sont en série, et là vous avez les festivals, les festivals chaque année, bon, etc., ou au contraire, l'occasion unique, la chose que vous ne pouvez pas rater parce que ça se passe une seule fois. Quelque part, ça crée, et ça s'est créé par un ensemble d'autres éléments qui permettent de le faire être, qui supposent que là, on a toute l'importance de la découverte, et la découverte telle que c'est un processus collaboratif, et là, ça met tout un ensemble de choses ensemble. C'est pas encore là, ça se fait pas sous le mode vedettariat et choses comme ça, c'est plutôt sous le mode de la consécration, mais vraiment avec les formes strictes de la légitimité, de ce genre de trucs-là. Et ce qu'on construit avec des événements, c'est des programmations. C'est pas un disque, c'est une programmation, c'est la mise ensemble de l'événement. Donc, je termine en vous disant, je sais pas du tout si ce qui se passe et l'histoire que raconte la crise, c'est celle-là. Mais disons qu'en ce moment, c'est la piste sur laquelle je suis. C'est là où me mène mon chantier. Et quelque part, ce chantier-là, pour moi, il est l'une des façons de performer la critique. Donc, il est l'une des façons, pour moi, de faire plus que juste dire, à la manière dont souvent on ramène Foucault et les contre-socialistes, à dire, ah, c'est tellement facile parce que dans le fond, tout ce qu'il s'agit de faire, c'est juste dire comment les choses sont pas. On dit juste, ah oui, il faut remettre en cause l'évidence. Remettons en cause l'évidence. Mais remettre en cause l'évidence, ça suppose des choses particulières, ça suppose un certain type de projet, ça suppose une certaine posture, ça suppose un paquet de choses comme ça. Et je pense que le chantier, en même temps, c'est une façon d'apprendre à faire être cette posture-là. J'arrête là.
Merci beaucoup,
Yves. Ça fait plaisir.
Parole est à vous.
Oui.
Tout d'abord,
Ah, ça serait bien de se présenter, oui, oui, et puis de parler, et puis...
Parler.
Et puis de parler fort. Non, mais c'est à cause de l'enregistrement.
Alors, Benma Ergent, je suis chargé de cours à l'Université de Sherbrooke, mais également doctorat ici en communication, doctorat en communication, et je m'intéresse aux questions des publics et des publics de la publicité et des publics de la créativité. Et je trouve, dans la dernière portion, dans toute cette question de l'espace-problème qui est le régime de circulation, le même genre de crise qui secoue en ce moment l'industrie de la publicité, où est-ce que les agences sont en train de revoir leur modèle d'affaires et non plus justement en termes de médias, de canaux, mais vraiment en termes de contenu. Ils deviennent des fabricants de contenu. Et pour moi, il y a un parallèle que le défi est maintenant l'objet comme contenu, comme événement, comme expérience que je vis. Et je pense qu'il y a la facette mainstream, qu'on la connaît aussi dans le monde de la publicité, mais la facette expérientielle, elle est extrêmement présente en ce moment. Et c'est pourquoi les agences, maintenant, s'adjoignent des services d'architectes, de designers intérieurs, de designers expérientiels, de gens qui produisent du storytelling, des marques. Et pour moi, le parallèle est extrêmement enrichissant de nommer de cette façon-là. Alors, merci pour ça.
Ça fait grand plaisir. Et je pense que ça nomme là avec une manière un peu particulière, bien sûr, liée à un angle. Là. Mm-hmm. Mais ce que tu nommes, je pense qu'on peut aussi le voir à peu près dans toutes sortes. Moi, je le vois, je le lis dans toutes sortes de trucs. Là. Il y a une architecture. Mm-hmm. Alors, si on parle de l'architecture comme vraiment ce qui se vit, le design, Montréal Design, là, regardez, c'est vraiment ça. C'est vraiment au cœur. Quelque part, c'est, je pense... Et c'est, à mon avis, c'est là où c'est intéressant de voir comment, quand tu écoutes les gens qui le parlent justement en termes de modèles d'affaires, il y a plus que des modèles d'affaires qui sont en cause, on s'entend, mais c'est sûr que l'une des transformations qui fait ça, ça vient avec et c'est constitutif, c'est la transformation où c'est, dans ces modèles-là, ce qui est une des choses qui revient dans ces milieux-là, c'est qu'ils vont dire, avant on vendait des disques, après ça on s'est mis à vendre... des spectacles. Maintenant, ce qu'il faudrait vendre, c'est des accès. Alors, et vraiment, ce qu'on essaie de voir, c'est comment est-ce qu'ils veulent essayer de vendre l'accès à. Alors, parler d'accès, on est même, je pense, une coche encore d'écart par rapport à l'expérience, et même pas à l'expérience encore. Je pense qu'on pourrait aller même ailleurs. Il y aurait d'autres choses qui se passeraient où je pense que, dans certains cas, on est en train de mettre en œuvre des façons de faire circuler l'accès, mm-hmm. ce qui est encore plus... Ouais.
Je crois que la circulation du contenu appelle également une appropriation du contenu. T'sais, au niveau de la musique, on le voit, on met beaucoup de choses en ligne pour dire « j'étais là, j'ai vécu cette expérience-là ». Répétons-la d'une autre façon en mixant, en recréant l'expérience. Puis ça aussi, on le voit beaucoup, énormément en publicité qu'on essaie de mettre entre les mains du jadis consommateur maintenant qui devient lui aussi producteur des contenus, qui devient lui aussi participant de l'expérience. Et donc, encore là, je trouve que ça atteste de ce que vous apportez. Merci pour ça. Et je vais quitter bientôt, c'est rien de personnel.
Je vais prendre
les
pas
personnels.
Merci
pour ça.
Ça fait plaisir.
J'ai des questions, mais généralement, je les réserve.
Ouais. Tu te réserves.
Ben oui, c'est parce que je ne veux pas prendre la parole quasiment en premier. Pour faire que d'autres s'expriment avant. Non, mais vas-y, là, ça va... Ah, bon, ça va réchauffer l'atmosphère. Par quoi commencer? Ah, je vais peut-être dire un mot sur pensée critique au singulier. J'étais la semaine dernière à Paris sur un séminaire qui portait... alors, ça n'avait pas le même titre, mais ça portait sur les questions de, on va dire, critique et études en communication. Et j'ai un peu relevé la même chose que ce qui s'est passé dans le séminaire depuis un peu plus d'un an maintenant. C'est qu'en fait, il faudrait mettre un S, ne serait-ce que parce que les façons dont les collègues, en fait, ont tendance à aborder la question sont extrêmement variées. Et je voyais même la semaine dernière, c'était juste jeudi, vendredi dernier, les intervenants étaient censés normalement être présenter une certaine homogénéité, puisque en fait, c'était un séminaire qui était co-organisé par une association hispanophone et lusophone en économie politique de la communication. Mais en fait, on s'est rendu compte que dès qu'on creuse un peu, les points de vue étaient extrêmement variés. Donc, en effet, oui, on aurait, j'aurais pu... J'ai marqué au singulier, mais j'ai commencé par dire, dès le début, je me suis rendu compte que c'était très, très éclaté. En fait. La deuxième chose, j'avais précisé, ça m'a rappelé ce que je t'avais écrit, là, ce que j'avais écrit d'ailleurs à tous les intervenants, c'était que ce qui m'intéressait, en effet, c'était une perspective épistémologique, mais qu'on pouvait très bien l'aborder de la façon dont on voulait. Hein. Donc, bon, mais cela dit, alors... Je me suis demandé, alors l'une des façons, en effet, de, il y a une phrase que je vais creuser, j'ai essayé de la noter, c'était la phrase de Foucault sur le travail de problématisation, de perpétuelle problématisation, et dès qu'il y a un mot, ça mourrait bien, voilà. Non, parce que je pense qu'on pourrait retrouver ici une façon, justement, de partir de ce qu'on pourrait appeler... On pourrait partir sur une pensée critique à partir de cette citation-là. Maintenant, alors, j'avais plusieurs questions. Tu pourras réagir dans le sens que tu veux. C'est une intuition, c'est vraiment une intuition, parce que j'ai jamais travaillé sur ce domaine, à part vraiment sur quelques aspects très précis. Est-ce que dans tout ça, dans tous les discours autour de cette crise... Quelle est la place des créateurs? Parce que j'ai l'impression qu'ils sont... On parle beaucoup de l'industrie, mais... d'ailleurs, du côté aussi de certaines critiques, on va dire que c'est plus en effet une crise de l'industrie et des grandes entreprises qu'une crise de la création en tant que telle. Mais évidemment, qui dit créateur dit mode de rémunération. Alors ça pose aussi des tas de questions sur les questions de propriété intellectuelle. Il me semble aussi qu'on pourrait envisager la chose en disant que dans toutes les industries culturelles, finalement, les créateurs ont souvent été ou principalement été ceux qui finalement touchaient les rémunérations et moindres. Bon, il y a eu des. Je me souviens, je ne l'ai pas lu, mais j'avais entendu d'un ouvrage de Jean-Guy Lacroix sur la situation, je pense que c'est dans le domaine du cinéma, notamment des femmes. Mm-hmm. Bon. Mm-hmm. Mais j'ai l'impression qu'ils sont relativement absents d'un discours. Alors est-ce que je me trompe? Bon.
Ils ne sont pas absents du tout. Ils sont même très, très présents. Ils n'interviennent pas toujours à titre de créateurs, ce qui est déjà en soi intéressant. Donc, ça oblige à défaire. Là, il n'y a pas comme les créateurs d'un bar puis les trucs de l'autre. À l'intérieur même du groupe des 10 créateurs, il y a des gens qui sont très vocaux pour dire, et là, vous les avez vus sur la place publique, il faut défendre les droits des créateurs. Et là, ils sont à grand renfort avec l'ensemble des organisations qui les défendent. Donc là, tu vois les créateurs, mais en tant que membres d'organismes qui, depuis des années, luttent pour la reconnaissance de leurs droits, y compris les droits de propriété. Donc, tu as toutes les associations et les organisations culturelles qui sont là et qui sont vraiment centrales, à travers lesquelles tu as ces voix des créateurs. Tu as ça. Tu as aussi des voix qui sont, les canons qui ont été volontairement utilisés pour décrier ce qui se passe, le piratage entre autres, mais qui l'ont fait en leur nom propre, mais au nom du fait qu'ils incarnent les grands symboles. Alors, plusieurs des auteurs, compositeurs, interprètes de renom qui ont fait... ces gens-là, on leur a demandé de prendre la parole et chacun a une petite capsule quelque part pour... ils ont fait ce genre de truc-là. Il y a aussi un ensemble d'artistes qui sont très présents, mais qui sont très présents en marge. C'est-à-dire, pas en marge, c'est pas l'expression que je vais utiliser. Ils sont très présents dans la mesure où ils vont faire un ensemble de choses, ils vont prendre un ensemble d'initiatives pour, entre autres, dire, ça fonctionne pas comme ça, mais regardez, il y a d'autres façons de faire. Et donc, c'est moins, parfois, leur présence publique, elle est plus pour réclamer, par exemple, l'attention sur autre chose. Dans les contemporanéités dont je mentionnais vitement, il y a, par exemple, et on y travaille en ce moment avec Martin Lelussier, on fait une étude sur les petites salles à Montréal. Et les petits lieux de salles d'art et de spectacle, c'est l'un des lieux où il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Les créateurs vont être très nombreux à dire, oubliez un peu ces choses à faire là, mais concentrez-vous entre autres sur ça. Ça, les politiques urbaines. Alors, c'est très central. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de créateurs qui sont à utiliser ce contexte, au bon sens du terme, pour dire ce dont il faut se préoccuper, c'est les politiques urbaines, parce que la capacité de pouvoir créer et de vivre de sa création, c'est pas juste des droits de propriété, c'est aussi règlements municipaux sur l'assurance qui permet que des salles embauchent ou pas tel type de musiciens. C'est aussi des règlements municipaux sur le bruit. C'est des règlements municipaux sur l'affichage sur des lieux publics. C'est, bon, un ensemble de choses comme ça. Mais il faut défaire très vite. Et dès que tu fouilles un peu, tu le vois. Puis je pense que c'est pas propre à ce milieu. Il n'y a pas une homogénéité. Il n'y a pas les créateurs d'un côté et les non-créateurs de l'autre. Il n'y a pas la méchante industrie versus les créateurs. Au sein même de la dite industrie, il y a des entreprises qui, elles-mêmes, sont aux premières loges de dire « oui, absolument, il faut faire de nouvelles façons, etc. » Et tu as des créateurs qui diront jamais un mot parce qu'en ce moment, la façon dont ça fonctionne, ça fait leur affaire. Dans la mesure où ce qui se vend encore sous forme de disque, c'est pas n'importe lesquels. Donc, quelque part, ils sont très présents, mais pas en tant que groupe homogène.
Mais est-ce qu'on peut dire que... est-ce qu'il n'y aurait pas une crise des créateurs au sens de la rémunération des artistes, des créateurs, qui est plus ou moins permanente quand même, au-delà de la question qui nous est...
Moi, j'ai l'impression qu'il faudrait même regarder comment cette crise, elle n'est pas toute seule. C'est-à-dire qu'elle est là, elle est très présente. Puis en ce moment, vous le savez probablement, il y a des débats sur, justement, la loi qui a été proposée par le gouvernement conservateur pour modifier la loi sur le droit d'auteur. Et c'est l'une de celles qui a fait la levée de bouclier est quasi unanime de la part des milieux de création pour s'opposer au projet conservateur. Et ce qui est en cause, c'est bien sûr les principes de la rémunération, mais je dirais plus largement, et là, il y en a plusieurs qui font cette analyse-là de plus en plus, c'est que ce qui est en cause, c'est plutôt les idées mêmes qu'on se fait de la valeur. Et donc, ce qui est en cause, c'est vraiment ce qui a l'air de pouvoir... Grossberg, dans son nouveau bouquin, je ne l'ai pas tout lu, c'est exactement le genre de truc qu'il essaie de proposer, c'est dire ce qui est en cause, c'est non seulement la production en culturelle, c'est beaucoup plus large que ça, c'est quelque chose qui suppose que les manières de produire et de ce que lui appelle traduire les valeurs les unes dans les autres seraient vraiment rendues problématiques. Et que donc, lui, il y voit une crise de ce qu'il appelle la commensuration. Donc, vraiment, la capacité de trouver des communes mesures pour pouvoir établir une quelconque sens de la valeur. Donc, et là, lui, il le voit dans ce qu'il appelle la crise de la modernité, bon, blablabla, mais c'est exactement dans cet esprit-là.
Sauter sur la dernière phrase de ton PowerPoint qui dit crise des manières dont les gens s'investissent.
Oui. Oui.
Elle dit souvent que les gens s'investissent.
C'est vrai. Elle a raison, par exemple. Ouais, c'est vrai, hein? Elle dit souvent ça. Peut-être ce que tu dis, non ce que je fais.
Oui, ça avait des pistes à faire parce que est-ce que c'est tout le temps du consommateur purement dans une question? Investissement, ça fait plus.
Non, je pense que ce que j'avais en tête, puis tu as raison de le pointer parce que c'est pas très efficace, mais c'est un raccourci, hein? On se dit tout le temps, c'est des raccourcis. Mais si tu forces à ouvrir la boîte noire. Les gens, je pense que ce que je veux pointer, c'est pas juste les consommateurs. Il y a une des choses qui, moi je pourrais dire, je trouve insatisfaisante, c'est de le faire justement par des catégories strictement de rapport à l'objet. Donc, c'est pour ça qu'entre autres, dans les trucs de circulation, j'arrive pas à placer les gens. Puis volontairement, ils ne sont pas là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas personne. Ça veut juste dire que ce n'est pas nécessairement en regard du rapport au produit. Parce que si on dit consommation, puis on dit producteur ou création, on dit en regard d'un produit. Si la forme qui circule est en cause, peut-être qu'il faut penser comment les nommer autrement. Donc, mes gens, je ne sais pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est juste que ce n'est pas juste des choses qui flottent. C'est aussi dans ce que, tu sais, je veux dire, ces enjeux-là dont je parlais, bien, je pense qu'ils... Il devrait concerner du monde. Je pense que si j'avais été plus... J'aurais dit du monde, tu vois? Guère mieux! Mais ce que j'aurais voulu dire par là, c'est volontairement, je veux pas les appeler consommateurs. Je veux pas, pour le moment, les appeler producteurs. Je veux pas les appeler, je sais pas moi, récepteurs. Je veux pas les... Parce que quelque part, je sais pas ce qu'ils sont là-dedans. Puis je pense qu'il serait plusieurs affaires. Mais si je suis un petit peu conséquente, je me dis... Ce que ça met en cause, ça serait, et là, si je suis le premier niveau, ce qui nous montre dans le plein visage, c'est à la fois les créateurs, à la fois les consommateurs, mais en même temps, toutes les autres pratiques que tout ce monde-là fait en même temps. Donc, quelque part, je me dis, ben, OK, si la forme, les formes qui circulent sont en train d'être changées, si on veut les penser légèrement autrement, ben là, je me dis peut-être qu'il faut sortir aussi de la manière dont la question est posée sur les gens. Entre autres, mais pas que. Parce qu'il y a des manières... Bon, si je me suis arrêtée à là. Moi, dans ma tête, là, je m'en allais vers quelque chose qui disait il faudrait penser aussi comment ça convoque un ensemble d'autres formes de communauté. Et là, je pensais vraiment... Hein? Ben oui, c'est ça, exactement. Tous les enjeux de ça, parce que avec les formes qui circulent, à mon avis, c'est que ça crée d'autres types de communautés. Et là, je pensais vraiment à la communauté qui vient de Gamben, vraiment en disant, c'est pas justement nécessairement les communautés au sein duquel, au Québec, la chanson devient là, la porte identitaire, et que c'est donc notre beau passé, notre beau... C'est pas nécessairement ça, c'est aussi des communautés qui sont là du fait de partager, par le partage, par la pratique, par la création. Donc, ça aussi, c'est une autre manière de parler du monde, mais ouais, je me suis arrêtée. Mais t'as raison, je vais noter.
Mélanie Millet, je suis doctorante ici à l'UQAM avec Serge Proulx. Je me demandais, avec les deux propositions, régime de circulation,
ouais.
Qui même si c'est en chantier incomplet, machin, ça me semble assez intéressant pour penser les deux dichotomies, la dichotomie en fait, qui est en train de s'installer. Puis je me demandais si, ben en fait, pas si, mais probablement dans le régime mainstream, il y a toute une tension également avec la forme organisationnelle qui est en place, avec toute l'idée d'aller vendre une chanson dans une radio pour qu'elle circule, pour qu'on la vende.
Yep.
Tout ça par rapport à un régime de circulation qui serait justement beaucoup plus du many-to-many au lieu de... donc qui est beaucoup plus en phase avec tous les médias sociaux, entre autres choses. Puis... là encore, je pense que Dani, il y avait un parallèle à faire avec la publicité aussi à ce niveau, les structures des agences qui sont vraiment désuètes par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en publicité. Puis, je me demandais jusqu'à quel point est-ce que ça vient jouer sur la manière justement dont la valeur se crée. À partir du moment où l'unité de base de la valeur, c'est l'expérience, mais déjà, on tient pour acquis que les gens participent, qu'ils ne sont pas trop auditeurs.
Je sais pas. Pour être honnête, je sais pas. La première chose qui me venait, je t'écoutais puis je me disais, ben, je pense que la transformation et le recours aux médias sociaux fonctionnent aussi dans le mainstream. Je pense qu'il faut voir comment ça a été mobilisé dès qu'ils ont pu. Dès que c'est disponible, ça a été mis à profit par les musiciens, les artistes, aussi par les entreprises. Donc, c'est déjà présent. Donc, c'est pas le passage de, tu sais, du média traditionnel, tu sais, style radio, télédiffusion, à un passage technologique. Je pense que les technologies sont présentes dans les deux, font l'objet d'usages différents, mais ils sont convoqués et mobilisés dans un autre assemblage, si on veut. Mais là où tu as raison, c'est que dans je pense que l'appeler expérience peut suggérer, et je pense que ça veut suggérer quelque part, que ce qui circule présume du monde, présume des gens. Bon, mais pas nécessairement sous l'angle de la production. Donc, pas nécessairement sous l'angle, justement, Web 2.0, là. Pas nécessairement sous l'angle de les producteurs... comment est-ce qu'ils les appellent? C'est les... C'est ça, ceux-là. Pas nécessairement. Les prosumeurs, les prosusés. Je sais pas comment on les appelle. En tout cas, ceux-là, là. Oui, c'est ça. Bon, en tout cas, bref, ce monde-là. J'ai l'impression que ça doit être une des variantes possibles, mais je suis pas certaine. C'est la seule manière dont c'est postulé. Mais dans d'autres façons, peut-être. Peut-être. Je sais pas. Mais oui, ça va me faire réfléchir moi aussi, tu vois. C'est bon ça. Merci.
Ça me fait que je rebondis un petit peu là-dessus, parce qu'il y a Daniel Chariera, je suis post-doctorat à McGill. Et moi, quelque chose qui me gêne dans les discours sur les producteurs ou l'espèce de superposition des producteurs et des créateurs sur un même plan, même si je suis d'accord avec toi que les créateurs n'existent pas comme... Mais ce qui me gêne là-dedans, c'est qu'on perd de vue finalement qu'est-ce qui constitue l'ensemble des activités pratiques qui constituent le travail de création. Et puis c'est quelque chose à quoi je m'intéresse. Puis justement, je voulais te demander, est-ce que justement, étant donné que le mode d'existence de ce qui circule est en question, et puis qu'on ne sait pas trop est-ce que c'est un produit, est-ce que c'est autre chose, quels peuvent être les régimes de valorisation de ces choses-là? Est-ce que cette espèce d'incertitude qu'il y a dans la conjoncture actuelle amène à penser différemment l'activité de spécialité de production des créateurs, qui est entendue avant comme quelque chose passé, qui est assez fixe? Il me semble que les problèmes que tu mets de l'avant, ça amène à penser ça aussi différemment.
Bien, une des choses que ma première réponse, c'est encore une fois, je ne sais pas. Puis c'est vrai, je ne sais pas. Mais l'une des premières choses qui me viendrait, c'est dans les entrevues qu'on fait dans le cadre de la recherche sur les petits lieux, une des choses qui est assez fascinante, c'est ces gens-là, on les rencontre, ce sont des propriétaires de salles, des gérants de salles, des choses comme ça, mais plusieurs sont artistes. Et quelque part, ces découpages-là viennent après coup. Et l'un des enjeux auxquels sont confrontés ces gens et les organismes ou les lieux, pour parler de leur langage, c'est ils sont pris dans des structures qui font en sorte qu'ils sont censés faire une chose et pas une autre. Par exemple, si vous êtes, une petite salle qui est censée faire du spectacle vivant deux fois par semaine, vous n'êtes pas censé faire, par exemple, du multimédia. Et ça, c'est pas juste par principe, c'est que les permis que vous obtenez, les rôles que tu as comme producteur ou diffuseur, les lieux physiques et donc les contraintes d'assurance, de permis, etc., le changent. Leur gros enjeu, c'est comment fonctionner dans les structures actuelles, sachant que leurs pratiques à eux et elles ne sont pas nécessairement moulées selon ces modes-là. Donc, pour répondre à ton truc, c'est qu'il y a des gens, et on n'imagine pas nécessairement juste l'artiste flyé qui est performeuse et qui fait de la toile. Et bon, leur exemple, c'est toujours, il y a plus que juste les plus flyés. Il y a des gens bien ordinaires qui, par exemple, veulent créer, faire de la musique et danser. Bon, tu sais. Ou encore qui travaillent avec, de la musique électronique, mais curieusement voudraient bien avoir, par exemple, sur scène un bassiste. Bon, tu sais, ce genre de truc-là. Et l'une des choses qui revient constamment, c'est peut-être que justement, en pouvant mettre l'accent sur ce qu'ils font, et non d'abord sur la catégorie à l'intérieur desquelles ils peuvent le faire, ça ouvre un ensemble de possibles. Et là, à ce moment-là, les salles, c'est souvent comme ça qu'elles réussissent à sortir, c'est de dire, on va mouler nos façons d'essayer d'interagir sur la place publique économiquement, financièrement, etc., en définissant la programmation qu'ils ont, d'abord, à l'instar et à l'image de ce que font les créateurs, plutôt qu'à l'intérieur des catégories. Ce que ça donne, par exemple, pour la ville de Montréal, c'est que plusieurs de ces salles-là ne sont pas reconnues comme salles parce qu'ils ne rentrent pas dans les catégories. Ça cause plein de problèmes. Ils n'arrivent pas à obtenir de subventions, ils n'arrivent pas à... Donc, très concrètement, ça affecte leur pratique directement, mais leur pratique ne rentre pas dans ça. Mais par ailleurs, il y a encore plein de gens qui, tu sais, font leur enregistrement studio-maison, les mettent sur des pistes, les vendent, puis c'est leur mode de création aussi. Donc, tu sais, il y a un peu tout ça, je pense.
J'ai une petite question d'éclaircissement. Non garantie. Mm-hmm. J'ai pas bien saisi dans le sens dans lequel tu l'emploies. Est-ce que ça renvoie à l'idée d'indétermination ou est-ce que ça n'a aucun rapport?
Ça a un rapport dans la mesure où c'est la façon, c'est une façon un peu encore là raccourcie de dire que la posture qui est mienne et que là, auquel je faisais des clins d'œil, et en est une où on se dit les choses sont ce qu'elles sont parce qu'elles ont été produites comme ça, elles auraient pu être autrement. Et donc, il n'y a pas cette garantie qui dit « puisque c'est comme ça, ça va rester comme ça » ou « puisque c'est comme ça, ça devait l'être ». Donc, c'est non pas une absence de détermination, mais un refus de la détermination stricte et de la totale indétermination. C'est davantage sur ce lien de non nécessaire, mais effectif. C'est ça que ça voulait signaler.
Je te remercie parce qu'avec cette réponse-là, pourrais-tu faire un lien...
Avec plaisir.
Ah non, mais en utilisant ton concept, le concept de conjoncture.
Oui. Tu veux que je fasse le lien en quoi et quoi, là?
Ça et le concept de conjoncture? Le without guarantees.
Oui.
L'articulation et la conjoncture.
Oui. L'une des façons qu'on pourrait faire le lien, c'est qu'effectivement... Penser une conjoncture, c'est penser en termes d'articulation, donc penser en termes de liens non nécessaires entre des éléments qui auront été mis ensemble, mais qui pourraient, dans d'autres circonstances, ne pas se retrouver ensemble, premier élément. Et ce faisant, c'est là qu'on voit la non-garantie, c'est-à-dire que ces mêmes éléments qui font être la chose sous l'angle d'une articulation qui a l'air d'avoir atteint une telle solidité qu'elle a l'air d'être prise pour acquise, pourrait donc être désarticulée. C'est ce que je pense que c'est une des choses que ça essaye de faire, c'est de montrer que ça peut être en train d'être désarticulé. Mais j'ai volontairement fait attention pour utiliser trop articulation, pour me faire taper sur les doigts, dire « qu'est-ce que tu veux dire par là? »
Non, parce que je trouve ça incroyable qu'elle ait pu parler de conjoncture comme tu l'as fait sans jamais utiliser le concept d'articulation. C'est ça qui était...
Mais c'était presque... Ben, je savais que c'est ça que tu vas faire après, hein? Je te réservais ton l'espace, problème.
J'ose à peine relancer, évidemment, éventuellement une dernière question, parce que
j'ai
quasiment l'impression qu'on a fait le lien là, entre
On a mis la table pour François.
Bon, alors, sauf s'il y a une main qui, dans les 5 secondes qui viennent... Allez, vas-y, mets-le.
J'ai une question. En fait, j'ai l'impression, par rapport à la...
mais présente-toi.
Ah oui, Julien, je suis doctorant en communication sous la direction de Serge également. Et en fait, en t'écoutant, j'ai l'impression de voir des similitudes finalement entre l'approche que tu mets en place et la sociologie des controverses sociotechniques. Parce que tu t'intéresses à la crise, la sociologie des controverses sociotechniques s'intéresse, essaye de comprendre les processus d'innovation en fait par justement les moments de controverse, donc des moments de crise également. Tente également en fait de mettre en réseau donc des actants humains, des actants non humains, etc. En fait, je voulais juste que tu m'éclaires sur ce point, que tu me dises, selon toi, quelles sont finalement les similitudes et les différences finalement entre ces deux approches. Pas tant d'un point de vue conceptuel que méthodologique en fait. Parce que je vois bien quels sont tes apports, quels sont tes apports conceptuels, etc. Mais je voudrais savoir un peu.
Merci pour ta question. Il y a des liens, je pense. Il y a des liens, mais peut-être pas où il pourrait l'être. C'est-à-dire que, pour faire une réponse longue ou courte, au plan conceptuel, c'est clair qu'il y aurait d'énormes différences. Mais si j'y vais par les parentés, l'une des parentés serait de vouloir comprendre par, effectivement, l'arrimage des humains non-humains. Sauf que là, je renforcerais très fort sur le non-garanti. C'est-à-dire, contrairement à une sociologie de l'innovation et axé sur l'analyse des controverses, il y a quelque chose de l'ordre « toute controverse se comprend telle que tralala », ce qui n'est pas le cas là. Là, ça s'adonne que c'est une crise. Dans conjoncture, il y a l'idée, pour Stuart Hall, il y a cette idée que ça se vit souvent comme une crise. Mais il ne dit pas, et je ne suggère pas, qu'il faut nécessairement une crise. Ça, c'est important pour moi. Donc, quelque part, ça n'a pas besoin d'être une situation de controverse, et que c'est pour ça que je ramenais en disant la crise pour moi est juste mon entrée sur la conjoncture. Elle me semble une entrée privilégiée, mais pas nécessairement la seule. En ce sens-là, même s'il cessait d'y avoir controverse, pour moi, la chose la rendrait pas moins... Bon, ça de un. Mais les parentés à vouloir conserver et mettre sur la table, je dirais repeupler, pour reprendre les expressions hénioniennes, repeupler en termes d'humain et non-humain, ça me semble partie prenante. Sauf qu'encore là, ce découpage-là, non pas comme, s'y accrocher, mais plus pour alerter à la multiplicité par l'hétérogénéité de ce qui se passe. Mais là où tu as vu des parentés de ça, oui. Mais pour moi, la crise, c'est pas une controverse entendue qu'il y a là une résolution technique ni à la manière de Calon. C'est pas une controverse technique à la Calon. Pas du tout. D'ailleurs, je l'analyse pas comme ça. Je n'aurais pas ce qu'il faut pour l'analyser comme ça. Je la vois se déployer sur la place publique. Donc, pour moi, il y a vraiment de l'ordre du discours public qui rendrait méthodologiquement plus difficile d'utiliser une approche à la Calon. La même manière de le prendre à la manière vraiment de, plus proche des dérivés latouriens, par certains clins d'œil, mais quand même avec... la petite réserve sur controverse. Non, je crois qu'on va prendre une pause.
Dernier appel, c'est fini. Merci, Lynn, encore.
Ça fait plaisir.
On va prendre 10 minutes de pause et puis ensuite, ce sera donc la parole à François Yann.